Bienvenue à la rencontre d'un inconnu. Aujourd'hui, nous continuons pour la deuxième partie avec Nicolas Lebrun. Enjoy.
T'as-tu eu la chance de travailler avec l'intelligence artificielle à travers ton métier?
Dernièrement, oui. En fait, présentement, je travaille pas en jeu vidéo. Je suis retourné dans le domaine de la finance. Puis, je travaille avec un produit de IBM qui a la documentation pour ça est extrêmement dure à lire.
OK.
Ça semble intentionnel, honnêtement, parce que IBM vend des services de consultation. Leur documentation est écrite pour que tu aies envie d'acheter ces services-là. Dans l'optique d'essayer de comprendre un peu plus ce produit-là, je me suis dit, hey, pourquoi je demande pas à ChatGPT de m'éclairer sur comment ça fonctionne? T'sais, il a lu toute la documentation, il va pouvoir me donner de l'information sur plus digérable, mettons,
que si
moi j'essaie de chercher directement. J'ai essayé de l'utiliser pour ça. Malheureusement, le succès était mitigé. Je posais des questions à ChatGPT. Initialement, ça semblait très cohérent ce qu'il me disait. J'étais super content d'avoir eu cette idée-là. J'étais comme, ah, ça va tellement être plus facile. Mais au fur et à mesure que je lui posais plus de questions, je me rendais compte, OK, il se contredit avec ce qu'il me disait initialement. Fait que là, j'ai été contre-vérifier ce qu'il me disait dans la documentation officielle. Puis, ça faisait pas de sens ce qu'il me disait. Là. Il regroupait des mots qui étaient dans le même domaine, mais qui n'avaient aucun lien nécessairement entre eux. C'est ça. Ce qu'il me disait, c'était pas cohérent. Je sais pas à quel point ChatGPT est à blâmer, par contre, parce que comme je disais, leur documentation est terrible. Fait que je pense que c'est en partie à cause de comment la documentation d'IBM est écrite que ChatGPT n'était pas capable de me le synthétiser de façon plus cohérente que ça.
C'est quand même un bon move de la part de IBM. Si même une intelligence artificielle peut pas lire sa documentation, ça oblige littéralement de payer IBM pour avoir quelqu'un qui explique sa documentation. C'est quand même un move qui a été pensé bien d'avance. C'est genre le 3D chess sur un moyen temps. Là. c'est vraiment impressionnant pour vrai de leur part. Là. Mais on entend la même affaire justement avec les assurances, que ce soit la finance, les affaires de même. Ils ont tout le temps genre leur diction, si tu veux, qui est vraiment comment je pourrais dire ça, qui est vraiment focusé sur leur propre métier, que si tu lis un contrat là, ça prend vraiment un avocat pour lire le contrat parce que les mots qui sont utilisés sont vraiment précis pour un avocat, tandis que toi tu lis ça, t'es comme, tu comprends absolument rien qu'est-ce qu'il se dit. Mais IBM, ils ont quand même, s'ils ont été capables de mélanger une intelligence artificielle sur leur propre lecture là-dessus, c'est quand même un power move là. C'est quand même un papier pour nous.
J'aime beaucoup ta comparaison avec l'avocat. Là. C'est très proche de ça. Tu essaies de parcourir leur documentation. Tu vas lire une page qui te dit « Ah, tel concept, ça se relie à tel autre concept. » Puis là, ça continue sur d'autres affaires. Puis là, t'es comme « Ah, mais j'aimerais vraiment ça comprendre. Ce premier concept-là, c'est quoi? » Puis là, tu cherches ça dans leur search. Tu vas tomber sur toutes les pages qui référencent cette chose-là, puis la page qui décrit cette chose-là est probablement sur la page 6 de ton résultat.
C'est tout trouvable en ligne, j'imagine, un site web?
Oui, sur le site web d'IBM, la documentation est
publiée. Un programme de même, tu checkeras, c'est Casper. Casper, c'est un programme, c'est une intelligence artificielle encore, mais ça fait des résumés de pages.
Okay.
Fait que moi, je l'utilise, mettons que je lis un blog, puis le blog, mettons, parce que je suis quand même assez lâche, là. Mettons que le blog, c'est genre 20 minutes de lecture ou un article que tu veux lire qui est intéressant, mais que tu n'as pas le temps de lire, mais tu prends Casper, qui est un add-on sur Google Chrome, puis tu es capable d'avoir une version rétrécie avec des insights puis des affaires de même sur la page. Fait que moi, je l'ai trouvé vraiment utile, puis ça me permet d'avoir plus d'articles de lus, mais avec beaucoup, beaucoup moins de temps. Fait que Casper.io, je pense. Ça aussi, je vais me le marquer, là, mais c'est très, très, très utile pour ça. Mais je pense...
Ouais. L'intelligence artificielle, en général, je pense que ça a beaucoup d'avenir. J'ai écouté une vidéo YouTube l'autre jour de quelqu'un qui a utilisé une intelligence artificielle pour générer une image à partir d'une description. Il a écrit une femme dans un setting cyberpunk. Il a généré une image à partir de ça. Ensuite, il a demandé à une autre intelligence artificielle de générer une histoire pour cette image-là. Il a filé l'image que l'autre intelligence artificielle avait créée. Il a dit, génère-moi une histoire de c'est qui cette femme-là, c'est quoi ce monde-là. Mm-hmm. Fait que là, l'intelligence artificielle, il a sorti un roman sur c'est qui cette personne-là. Il utilisait une troisième intelligence artificielle pour lire ce roman-là, puis de créer un narratif par-dessus son image. Fait qu'au final, tu te retrouves avec une histoire générée entièrement à partir de l'intelligence artificielle, avec le son, le visuel, tout. C'est hallucinant. J'ai vraiment hâte que ça soit plus mainstream, puis de voir qu'est-ce que les gens vont créer avec ça. Je pense qu'on va avoir une explosion de produits puis de créativité.
Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis j'ai commencé à gosser sur l'intelligence artificielle avant de commencer à faire le podcast. Fait qu'il y a beaucoup de tâches que quelqu'un pourrait faire que moi, je prends une intelligence artificielle comme un assistant. Voilà deux ou trois épisodes, j'ai fait l'entrevue avec ChatGPT, justement. Fait que moi, je leur ai posé la question. J'ai pris une autre intelligence artificielle pour prendre ses réponses, pour les transiger en parole, pour créer justement un style de communication qui se passe entre les deux. Et les images que j'ai mis en ligne sur TikTok et YouTube, c'est Midjourney qui me les a faites sur, c'était comme la description, c'est intelligence artificielle avec conscience. Ça m'a sorti des différentes images, puis je les ai pris en considérant que c'était l'intelligence artificielle. Fait que tu peux tout faire. Puis encore là, plus que ça devient mainstream, plus qu'il va y avoir de possibilités. Puis il y a un site que je suis, puis ça, je suggère à n'importe qui veut être au courant des dernières nouvelles sur l'intelligence artificielle, c'est futurepedia.io. Ça se peut que je me trompe, mais je vais mettre un lien en dessous de celle-là. Là. Puis c'est... comment je pourrais bien dire ça? C'est genre la page que t'as les plus... C'est la page que t'as les nouvelles les plus récentes. Si t'as un nouveau programme d'intelligence artificielle qui sort, il est affiché là. Si t'as des nouvelles récentes, ils sont affichés là. Fait que ça, je donne un petit peu de mon business, si tu veux, là, mais sur mon site, c'est pas moi qui fais la description, c'est pas moi qui fais la transcription plutôt de notre conversation.
Okay.
C'est une intelligence artificielle qui fait la transcription du podcast avec des timestamps. Fait que tout, qu'est-ce que, justement, si tu vas sur mon site puis tu vas voir la transcription, ça, c'est 100% en intelligence artificielle qui l'a fait. Puis l'affaire qui est le fun avec les intelligences artificielles, c'est généralement quand ils sont sortis récemment, sont gratuites. C'est rare qu'ils vont justement commencer avec un prix. Généralement, ils commencent gratuits. Après ça, ils vont donner des options. Mettons, tu veux faire 5 prompts ou plus, ben là, il va falloir que tu upgrades, il va falloir que tu payes. Genre, ChatGPT, justement, c'est ça qu'ils ont fait. Là. Récemment, la semaine passée, je crois, ils ont sorti ChatGPT-4, qui est encore... C'est sauté bien raide. Là. C'est vraiment genre une coche en haut de qu'est-ce que c'était. Tu peux jouer sur ChatGPT-3 gratuitement. Tu payes 20 ou 30 pièces par mois, puis tu t'en vas sur ChatGPT-4, puis c'est genre un nouveau monde, carrément. Mais tu peux tout avoir accès à ces différentes plateformes-là à partir de futurepedia.io, puis c'est n'importe quoi. J'ai trouvé un intelligence artificielle qui faisait des sites web. J'ai trouvé une intelligence artificielle qui faisait de la musique. J'ai trouvé une intelligence artificielle qui fait de la finance. Il y a l'intelligence artificielle qui fait la place d'un avocat pour te donner des conseils légaux. C'est n'importe quoi. À date, en moyenne, tu as 10 à 15 nouvelles intelligences artificielles qui sortent par jour.
C'est fou
bien raide.
En ce moment, là. Je sais pas jusqu'où ça va aller. Je sais pas si on va atteindre le point où ils deviennent conscients de ces intelligences artificielles-là, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas loin. Si on est pour l'atteindre, ce point-là, on n'est pas loin, je pense.
Moi, je suis quand même très d'accord avec toi, là. Puis il y a certaines affaires qui se passent à travers ce monde-là que c'est très particulier. Ils ont sorti une nouvelle récemment. Microsoft aurait... Ça, j'ai pas regardé l'article. Fait que, ça se peut bien je me trompe, là, mais le titre de l'article était que Microsoft avait libéré les programmeurs éthiques de leur programme d'intelligence artificielle. Parce que on s'entend à un certain point, l'éthique va quand même ralentir la progression, mais l'éthique est là quand même pour une raison. Puis c'est une raison qui est très importante.
Ouais, c'est un peu inquiétant qu'ils aient enlevé de là-dessus.
C'est ça. Là. Puis je sais pas si tu savais, mais Microsoft est propriétaire à 46% de OpenAI qui sont en charge de chat. Fait que t'as quand même beaucoup de nuances qui sont comme, il y a quelque chose quand même qui se passe dans cet univers-là. C'est un gros, une grosse affaire à regarder puis à être au courant de ça éventuellement. Mais c'est vraiment impressionnant l'évolution de ça.
Ouais, vraiment. J'aimerais ça m'en servir encore plus dans mon day-to-day.
Mm-hmm.
si mettons le code que j'écris n'était pas privé, là, j'ai pas le droit de partager ce code-là sur Internet. Fait que je peux pas donner mon code à ChatGPT puis lui demander de faire des modifications, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Des fois, tu sais, je sais ce que je veux faire, puis de passer à travers tous les différents fichiers du projet pour faire la modification, c'est très long. Si je pouvais juste dire à ChatGPT, hey, je sais que je veux que mon logiciel fasse ça de telle façon, je veux telle architecture dans ma solution, il pourrait le faire pour moi presque instantanément. Moi, je vois beaucoup de potentiel là-dedans. Malheureusement, je suis dans un emploi où c'est pas possible de faire ça.
C'est comprenable.
Doit demeurer peu privé, mais j'y vois vraiment beaucoup de potentiel. J'ai hâte qu'on arrive à un point où ça va être une possibilité.
Ben, j'imagine, comme beaucoup d'autres programmes, éventuellement, ça va être... peut-être plus aujourd'hui, mais tu achètes un disque dur externe avec une intelligence artificielle dessus qui est privée, ça va être dans la possibilité à s'en venir. Puis avec...
La compagnie pour laquelle je travaille pourrait acheter un service d'intelligence artificielle où c'est privé, tu sais, que c'est isolé à notre compagnie, puis là, on pourrait avoir accès à ça. Je pense que c'est encore trop jeune pour que notre compagnie prenne action là-dessus, mais c'est sûr que ça va s'en venir dans le futur.
Ouais, c'est sûr que ça s'en vient. J'ai demandé à ChatGPT de me préparer une intelligence artificielle. Fait que eux, ils te sortent le « how to do it », puis après ça, tu fais juste y reposer les questions un après l'autre. Il te sort un code, fait que lui... En fait, une intelligence artificielle, de base, c'est relativement simple. C'est un programme qui va récupérer l'information et que de là va pouvoir répondre à partir de l'information qu'il a reçue. Généralement ça. Fait que si tu es capable de faire un database assez vaste pour avoir assez de réponses, bien, rendu là, il est parti. Là. Fait que c'est juste de faire ça puis de justement avoir l'humain qui fait comme « Non, finalement, ça, c'est pas bon. Ça, c'est l'autre bord, et ainsi de suite. »
Exact. Je pense que c'est ça qui a fait grandir ChatGPT si rapidement, c'est qu'ils ont eu tellement d'utilisateurs, puis l'interaction de ces utilisateurs-là avec ChatGPT fait grandir ChatGPT. ChatGPT apprend ces interactions-là.
Ouais.
Moi, j'étais curieux de tester ses connaissances en jeux vidéo. Je lui ai demandé, je suis un grand fan de Diddy Kong Racing sur Nintendo 64. Je lui ai demandé, hey, peux-tu me décrire Diddy Kong Racing sur Nintendo 64? Il décrit les personnages, il me dit que c'est un des jeux de karting des plus... acclaimed dans l'industrie du jeu vidéo, puis c'était tout accurate. Fait que là, je divague un petit peu sur Donkey Kong Country, je lui demande qu'est-ce que tu peux me dire sur Donkey Kong Country, puis là, il fait une faute, il me dit que Dixie, c'est la blonde de Diddy, c'est pas sa blonde, c'est sa cousine. je lui note la faute, puis il dit, oh, excuse-moi, je me suis trompé, t'as raison, je corrige ça. Là, j'ai trouvé ça drôle comme interaction. Je me dis, quelques jours plus tard, je me disais, je vais aller reposer la question, voir s'il se trompe encore, s'il me sort la bonne réponse. Puis il avait vraiment appris, il m'a répondu que c'est sa cousine.
C'est quand même assez hot, là. Mais je sais qu'il apprend de lui-même, mais il apprend plus pour le prochain. Parce que ChatGPT, le 3, a arrêté d'être upgradé en 2021. Fait que si tu lui poses des questions sur les années suivantes, mettons, comment que je login à ChatGPT 4? Mais il tire un blanc, là. Il sait pas comment se diriger. Mais je crois que le ChatGPT 4, c'est beaucoup plus modernisé relatif à justement l'information qu'il reçoit. Fait que c'est encore plus explosif et encore une progression encore plus verticale par rapport à comment que lui va grandir. Moi je crois que c'est inévitable qu'à un moment donné, il prenne la conscience. L'évolution est trop rapide pour pas se rendre là, mais ça va être un moment qui va être. Je pense qu'il va marquer l'histoire de l'humanité. Là. Si ça se fait, puis si ça se dit, là, ça va être très, très particulier. T'as-tu quelque chose de codage que t'aimerais pareil partager? Une expérience personnelle qui t'a marqué dans le codage?
Nécessairement. On parle d'intelligence artificielle. Là, mon premier emploi chez Frima, en rentrant, un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, c'était un Connect Four, tu sais, le jeu classique où il faut mettre quatre cercles en ligne pour faire un point. Puis on voulait une intelligence artificielle pour ce jeu-là, puis c'est moi qui l'a programmé. Ça a été comme ma première expérience à programmer un AI. Puis pour programmer un AI qui était bien capable de jouer à ce jeu-là, ben, il fallait que moi-même, je comprenne bien ce jeu-là, que je comprenne les stratégies et tout. Fait que bon, je me mets à lire un peu sur Internet, c'est quoi les meilleures stratégies pour gagner. Puis fait que là, j'implémente ça dans mon programme. Puis j'en suis arrivé à un point où, Colin, je suis plus capable d'abattre mon intelligence. À chaque fois que je joue, il me bat. C'était quand même vraiment le fun, ça, comme moment, là, de genre, au début, tu sais, il était vraiment dumb, je gagnais tout le temps mes parties. Mm-hmm. À fur et à mesure que je continuais de travailler dessus, puis que j'apprenais des stratégies sur Internet, tu sais, même si moi, je connaissais ce que j'avais appris sur Internet, lui, il l'exécutait mieux que moi.
Mm-hmm.
Ouais, fait que quand j'en suis arrivé à un bout où, bon, je suis plus capable de le battre, c'était le fun, ça.
C'est quand même hop, pour vrai. Je m'attendais pas à avoir une histoire d'intelligence artificielle sur cette question-là. C'est vraiment, vraiment hot comme réponse. Tu me fais penser à ça, par contre. Tu préfères-tu avoir un codage court mais compliqué ou un codage long et simple?
Long et simple.
Long
la
et simple.
La simplicité pour moi, c'est ce qui est le plus important.
OK.
Parce que quand ton truc est complexe, tu vas essayer d'y revenir quelques semaines plus tard, puis un mois plus tard, tu vas essayer de venir le modifier, puis tu te rappelleras pas de toutes les nuances de pourquoi tu as fait les choses exactement comme ça. Ça va être vraiment facile que tu brises des choses sans savoir, parce que tu as oublié pourquoi c'était fait exactement comme ça. Tandis que si tu optes pour la simplicité, souvent ça vient au coût de la performance, par contre, là, fait il y a tout un balai à faire, là, mais où c'est possible, où la performance n'est pas importante, j'opte toujours pour la simplicité du code parce que c'est ce qui va donner des logiciels plus robustes, moins de bugs, plus faciles à modifier, donc moins de temps de développement, moins de coûts en production. Fait que vraiment, j'opte pour la simplicité où c'est possible. Il y a certains bouts de code, par contre, qui sont très critiques en performance, qui vont runner, mettons, à toutes les frames, puis que c'est très demandant. Fait que là, à ce moment-là, la complexité, c'est correct. Là. Ce qui est important pour ces bouts de code-là, c'est la performance. Mettons, le code qui te ramène au main menu, tu l'exécutes une fois quand tu cliques sur exit main menu. Fait que dans ce genre de d'endroit-là dans le code, la simplicité, c'est ma priorité.
C'est quand même une très bonne réponse. Là, on va lâcher un petit peu plus le codage, puis on va aller un petit peu plus vers les jeux vidéo. J'imagine que tu t'en rappelles, mais un des premiers jeux qu'on a joué ensemble, c'était Diablo. Je crois que c'était le 2, si je me trompe pas.
Oui.
En passant, j'ai redownloadé récemment et j'ai refait le tour parce que c'était justement un childhood memory, que c'était vraiment, vraiment le fun à jouer. Mais depuis ce temps-là, toi, t'es plus tombé vers World of Warcraft. C'est comment que ça se passe présentement dans l'univers de World of Warcraft?
En fait, je joue pas au jeu retail de World of Warcraft, je joue aux vieilles versions de World of Warcraft.
Oh, ouais.
Le jeu est sorti initialement en 2004. Mm-hmm. Il y a eu maintes expansions depuis. Moi, j'ai perdu un petit peu intérêt envers la version retail du jeu, environ à Warlord of Draenor, qui était, je me rappelle plus ça fait combien d'années, là, mais je joue encore aux versions retail quand ils sortent une nouvelle expansion. Tu sais, je vais assurer l'expansion, je vais leveler max level, je vais voir les nouvelles zones, mais je raid pas activement un coup max level, j'essaie pas activement d'améliorer mon personnage rendu max level. Pour moi, le jeu est devenu trop action-based, c'était trop difficile. Ça me demande trop de concentration pour jouer. Moi, je joue au jeu pour unwind à la fin de ma journée. T'sais, c'est pas, j'aime pas la difficulté que le jeu propose. Pour moi, c'est trop élevé.
Mm-hmm.
Puis, en 2018, en fait, avant même 2018, il y a toujours eu beaucoup d'engouement en ligne pour la première version de World of Warcraft, celle qui est sortie en 2004.
Mm-hmm.
En 2004. Les attraits de cette version-là par rapport à celle suivante, c'est que le jeu est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus long se rendre au niveau maximum. Fait que t'es investi dans ton personnage vraiment beaucoup plus que dans le jeu moderne. Puis il y a beaucoup moins de fonctionnalités qui rendent les interactions sociales automatiques. T'sais, mettons dans le jeu retail, tu vas aller faire un donjon, tu trouves une interface, tu dis moi je suis tank ou moi je suis DPS, puis automatiquement tu vas te faire téléporter dans le donjon avec des inconnus, puis let's go, vous faites le donjon, puis ça finit là. Par rapport à la version originale du jeu où il fallait que t'avais pas le choix d'interagir avec les autres joueurs si tu voulais faire un donjon. Si tu voulais aller faire un donjon, ben tu. Hey, il y a un warrior là à côté de moi, je vais demander ça. Hey, ça te tente, on va aller faire ce donjon-là ensemble, on va te trouver un autre healer. Fait que le jeu te poussait à socialiser avec les autres joueurs pour arriver à un but commun. Mm. Ce qui est plus vraiment le cas dans le jeu moderne. Il y a beaucoup de gens qui affectionnent beaucoup cette version-là du jeu pour ça. Puis il avait développé des serveurs privés qui renaient encore cette version-là du jeu pour les enthousiastes de cette version-là qui puissent aller jouer. Ça a attiré mon attention à peu près en 2014. Fait qu'à peu près 4 ans avant que Blizzard le ressorte officiellement, moi, je jouais sur des serveurs privés de cette version-là. C'est ça. En 2018, Blizzard ont réalisé que en fait, ils se battaient légalement avec ces serveurs privés-là pour les fermer parce qu'ils voulaient protéger leur propriété intellectuelle depuis des années. Puis là, à un moment donné, j'imagine qu'ils ont réalisé, hey, il y a peut-être de l'argent à faire, tu sais.
Ben oui, oui.
On effondre un, il y en a un autre qui apparaît, puis il y a une communauté tout le temps, tu sais, mm-hmm. C'est Whack-a-Mole. Ils ont décidé d'arrêter de se battre, j'imagine, puis ils ont décidé d'offrir le service eux-mêmes. Mm-hmm. Fait que c'est ça, ils ont ressorti la version originale du jeu, un peu comme RuneScape l'a fait. Je sais que RuneScape aussi, ils ont une version du jeu qui est comme la version courante qui n'a jamais arrêté d'être développée, puis parallèlement, ils ont restarté du début, puis c'est la communauté, en fait, dans RuneScape qui drive les changements. Là. Il y a des pôles à tous les mois de qu'est-ce que vous aimeriez qui soit différent dans le jeu. Puis, en tout cas, bref, je m'écarte un peu de World of Warcraft, mais c'est ça. Blizzard ont ressorti le jeu comme il était à l'époque. Ils sont en train de repasser à travers toutes les expansions. Fait que là, présentement, World of Warcraft classique est terminé. Ça s'est terminé en 2019-2020, je suis plus trop sûr. Burning Crusade, qui est la première expansion, aussi s'est terminée. On est présentement sur la troisième expansion, Wrath of the Lich King, qui est l'expansion la plus connue du jeu. World of Warcraft, à quelqu'un qui connaît pas du tout le jeu, Lich King va probablement sortir comme quelqu'un qui connaisse de cet univers-là. Mm-hmm. Comme le vilain le plus connu, si tu veux, du jeu. Fait que je suis en train de jouer à cette version-là du jeu présentement. J'ai ma guilde de Québécois, on est une centaine à peu près. On a trois raid groups différents qui créent le contenu à chaque semaine. Puis c'est pas la fun.
Puis toi, c'est quoi ton rôle dans l'équipe?
Je suis healer slash tank. Mon rôle principal, c'est healer. Mais ça arrive des fois que les tanks sont pas disponibles pour une soirée ou autre. Fait que je suis le emergency tank dans mon groupe. Mon rôle principal, c'est d'être healer.
Bon, c'est quand même hot. T'as-tu... Je sais pas si ça marche avec World of Warcraft ou même si t'as le temps de le faire. T'as-tu plusieurs différentes builds ou c'est straight tank?
Non, t'as plusieurs différents builds.
Non, mais
c'est
toi...
C'est sûr qu'il y a des builds plus cookie cutter, je dirais, là, des builds de base, mettons. Mm-hmm. Mais tu peux personnaliser des choses jusqu'à un certain niveau. C'est sûr que si t'es tank, tu vas mettre 50 points dans ton talent tree de tank pour aller chercher le dernier qui est à 51. Ça, c'est une nécessité. Mais où tu mets exactement ces choses-là, ça peut varier. Puis c'est beaucoup dans tes items aussi qu'il y a de la customisation. Tu sais, moi, je préfère bloquer plus souvent ou moi, je préfère dodger plus souvent. Les deux ont des attraits, il y a des raisons de préférer l'un ou l'autre. C'est beaucoup dans comment tu vas orienter tes choix de gear, je dirais, qui customise beaucoup ton comment tu vas jouer ton personnage.
Je comprends. Mais je veux juste rephraser ma question. Toi-même, as-tu plus qu'un build?
Ah, OK. Oui, je joue healer et tank, fait que déjà là, c'est deux builds différents, mais même à même ces deux spécialisations-là, j'ai des sous-builds.
OK.
Mettons, mon build de healer, il est assez de base, je dirais, mais il y a un boss dans le raid qu'on fait présentement qui a une particularité que tu peux pas regagner de la mana pendant le fight. Tu commences le fight avec la mana que t'as, puis elle peut juste descendre. Impossible qu'elle remonte. Toutes les habilités qui font remonter la mana ne fonctionnent pas dans ce fight-là. Fait que c'est vraiment intéressant comme défi parce que ça change beaucoup quels items tu veux porter. Par exemple, dans mon build de base, je veux beaucoup de haste dans le jeu. Le haste, ça fait que tes spells se cassent plus vite. Dans le contexte de ce fight-là, ça va juste faire que je vais manquer de mana plus vite. Je préfère avoir du crit, mettons, qui va faire que mes heals vont aider plus. Dans cette situation-là. Même chose avec mes talents. Il y a des talents qui m'aident à regagner de la mana complètement inutile dans ce fight-là. Je vais prioriser des talents qui vont augmenter un petit peu les lignes que je fais au coût de la régénération de mana parce qu'anyway, elle n'est pas présente dans ce fight. Puis même chose en tank aussi. Il y a des fights où il va y avoir beaucoup d'ennemis différents qui vont arriver. Fait que là, tu veux des talents qui vont t'aider à garder l'aggro sur plein d'ennemis différents en même temps. Versus qu'il y a d'autres fights où c'est un DPS race, les DPS ont un buff de fou qui augmente leur damage vraiment énormément. Fait que toi, en tant que tank, c'est dur de garder l'aggro sur le boss parce que les DPS font un DPS de malade. Fait que tu veux aller chercher un build qui est vraiment focus sur augmenter ta threat en single target. Fait que ouais, le jeu te propose toutes sortes de différentes situations qui fait que tu veux customiser comment tu joues ton personnage.
C'est vraiment hot parce que tu dois quand même adapter ta stratégie avec peu importe qui tu fais face. Mettons, si on parle, Dark Souls, techniquement, n'importe quel build, t'es capable de quand même passer en travers, surtout parce que c'est du solo. Puis c'est plus du... t'apprends à bouger, puis t'apprends à naviguer le boss, tandis que World of Warcraft, c'est stratégie sur un plus gros plan. Tu peux pas juste faire un Leroy Jenkins, puis il a la tête baissée, puis espérer que tout va bien. Là. Ça marche pas dans World of Warcraft.
Ça va finir comme dans la vidéo de Leroy. Là.
C'est ça. Tout le monde meurt, puis après ça, tout le monde blâme Leroy, parce que « I'm sorry, I didn't want to... » Tu sais, fait que...
At least I had chicken.
Y a-tu d'autres jeux qui t'intéressent, peut-être pas au niveau de World of Warcraft, parce que clairement c'est ton main game ça, en tout cas de qu'est-ce que je peux comprendre, c'est vraiment ta priorité en fait de jeu vidéo. T'as-tu d'autres jeux récemment qui ont vraiment marqué ton côté gamer?
Oui, j'ai découvert les survival dans les dernières années.
Okay.
Ça l'a occupé énormément de mon temps. Ça a commencé avec Ark Survival Evolved.
Mm.
C'est un jeu de survival avec des dinosaures.
Ben oui, c'est le fun, ça.
J'adore les dinosaures. Je veux dire, qui n'aime pas, en tout cas. C'est ça. Puis ça l'a... La première fois que j'ai joué à ce jeu-là, j'ai passé, je pense, 250 heures dans notre première game avec les settings de base.
Mm.
Ce jeu-là est incroyablement long quand... En fait, il n'est pas fait pour être joué tout seul. Tu es censé avoir un clan de plusieurs personnes pour maintenir ta base, maintenir. Tu peux domestiquer des dinosaures, là. Fait qu'il y a un côté domestique, il faut que tu nourrisses, faut que tu t'en occupes. Fait que, ça demande vraiment beaucoup de temps. Initialement, j'ai joué avec les settings de base, puis, on parlait tantôt de perdre des saves, là. Il m'est arrivé un bug dans ce jeu-là où j'avais réussi à tamer un des dinosaures volants qui est le plus difficile à tamer.
Ouais, le Quetzal.
En fait, non, c'était pas le Quetzal, c'était l'espèce d'aigle. J'oublie son nom.
Je sais que tu parles, mais moi non plus, je me rappelle plus du nom. Ouais.
J'ai réussi à le tamer. Je me dis, bon, parfait, je vais aller faire une run de métal avec ma nouvelle monture.
Mm-hmm.
Je prends ma monture, je débarque avec ma note de métal. Dès que je débarque, l'oiseau décide qu'il pique vers le haut. J'essaie de le call back, il m'écoute pas. Je l'ai perdu. Il est juste parti en volant. Il était au plafond du monde. J'ai été me chercher un autre dinosaure volant. J'ai essayé d'aller le retrouver. Je l'ai jamais retrouvé. J'ai perdu comme 30-40 heures de ma vie juste parce que, pour une raison que j'ignore, mm-hmm. J'ai décidé qu'il partait verticalement vers le haut quand j'ai débarqué puis je l'ai jamais revu. Mais ouais, j'ai joué premièrement à Ark. J'ai passé, je pense, j'ai 150 heures, 1500 heures
de
Ark
dans
Steam. J'ai joué beaucoup. Puis plus récemment, Valheim aussi, j'ai mis quand même pas mal d'heures. Je pense que je suis rendu à pas loin de 500 heures dans Valheim. C'est un survival de viking.
Mm.
Tu crées ton bateau, tu te promènes. C'est super le fun, j'aime vraiment ça. Je retrouve un peu l'aspect MMO, dans le sens, c'est pas un MMO, il n'y aura pas 1000 joueurs dans ta map, mais je veux dire, c'est un monde persistant dans lequel tu te connectes, puis que les autres joueurs sont là aussi, tu peux interagir avec eux, puis le monde existe, que tu sois là ou non, il va continuer de se passer des choses dans ce monde-là, même si t'es pas nécessairement connecté. Fait que c'est un peu ça qui m'attire dans ces jeux-là, je pense. Tout l'aspect crafting aussi, collecter des ressources, bâtir ta base, c'est super le fun.
Mm-hmm.
J'ai joué à Raft aussi récemment, qui est un autre survival beaucoup plus relax, mettons. Là. C'est vraiment plus un story-driven survival.
Mm-hmm.
Mais il y avait une particularité que je trouvais super intéressante par rapport aux autres survivals. Dans tous les autres survivals que j'ai joué, tu construis ta base, puis t'explores autour de ta base. Dans Raft, tu construis ta base et t'explores avec ta base.
Mm-hmm.
Fait que c'est vraiment... J'ai beaucoup aimé cette dynamique-là. Fait que ouais, les survivals ont occupé pas mal de mon temps dans les dernières années. Puis il y a aussi un autre style de jeu qui est beaucoup plus niche, mais que moi j'adore. C'est des idle games. C'est des jeux qui se jouent tout seul, dans le fond. Tu interagis un petit peu avec. Celui que je joue présentement, il s'appelle Crusaders of the Lost Idol. C'est un RPG. Tu places tes personnages dans une grille, puis tes personnages attaquent les ennemis qui arrivent à droite de l'écran constamment.
Mm-hmm.
Tu peux progresser dans les levels, puis t'équipes tes personnages, tu choisis leurs talents, c'est un RPG dans le fond, mais que tu casses pas les spells, tu vas juste placer ton bonhomme puis il va caster les spells automatiquement.
Mm-hmm.
Je trouve ça le fun, ça me donne un sentiment de progression. T'sais, je joue à peu près 15 minutes par jour, mais le jeu run 24/7 de mon ordi. Je donne l'attention 15 minutes, je fais mes upgrades, je place mes affaires, j'optimise le rendement de mon truc, puis après je l'oublie pendant une journée. Ça me donne un petit C'est un peu comme avoir un Tamagotchi, genre.
Ouais, ouais, ouais. un petit Tamagotchi un petit peu plus violent, là. Mais en fait, ça me fait penser genre à Tamagotchi puis du Tower Defense. Parce que techniquement, ouais, c'est genre juste du non-stop que tu laisses battre, là. Non, c'est quand même le fun, c'est quand même intéressant, ça. Je vais combiner un petit peu les deux sujets, justement, entre le jeu vidéo et la programmation. Si t'aurais pas de limite sur un budget, puis t'aurais free reign pour créer ce que tu veux comme jeu, décris-moi le jeu que tu voudrais faire.
Ça, c'est dur comme question.
Ok, ben d'abord, on va formuler,
non,
ok?
Mais que j'aimerais faire que c'est dur comme question.
Ah, c'est sûr, c'est très vaste comme question. D'abord, on va refocuser un petit peu sur certains points. Si tu serais pour créer un jeu, quel style que ça serait? RPG, shooter, MMO, on va commencer par ça. Quel style que tu ferais par rapport à ça?
Je pense que ce serait un action RPG à la Diablo. Si je pouvais en créer un, je pense que ce serait le style de jeu que je préférerais. Mais j'ai aussi beaucoup le goût de te répondre à un idle game. Je suis tiraillé entre les deux. Mais
Pourquoi pas une combinaison des deux?
Ben, mon idle game, ce serait un RPG un peu comme Crusaders of the Lost Idol que je joue présentement. Il y aurait des rôles différents pour tes personnages. Ces personnages-là auraient des items, tu pourrais changer comment leur spell se comporte. Ce genre d'interaction-là, c'est ce que j'aime le plus dans les jeux. Fait que c'est sûr que j'irais voir quelque chose comme ça.
T'aimes-tu quand même du dungeon crawling?
Oui, oh oui, j'ai joué beaucoup à Rogue Legacy, à toutes les roguelikes qui sont sortis dernièrement, je les ai au moins essayés. Il y en a beaucoup que j'ai pas joué plus qu'une demi-heure, mettons, mais j'ai quand même... Mais Rogue Legacy en est un que j'ai passé quand même plusieurs heures dedans. j'aime ça, ce genre de jeu-là.
Non, c'est quand même le fun à entendre ça. On s'approche de la fin. Ça fait quand même 1h15 qu'on est là-dessus. Là. on va y aller avec. As-tu une citation? Je sais que t'as une citation préférée, mais je veux changer un petit peu la question. As-tu une citation de jeu vidéo préférée?
Je dirais Illidan dans World of Warcraft, you are not prepared. Je pense que ça s'applique à tellement de choses dans la vie. Je pense que à travers la vie, on apprend de nos erreurs puis on grandit en tant que personne. Puis je pense que cette citation-là, s'applique à pas mal tout dans la vie. Tu peux pas être préparé pour ce qui s'en vient. Tu prends ton bagage que t'as dans la vie puis t'essaies de faire au mieux dans la situation qui t'est proposée puis t'apprends de ça. Fait que, ouais, je pense que ce serait ma citation préférée des jeux.
C'est quand même une très bonne citation. Pour celle que tu m'as donnée durant la pré-entrevue, je vais quand même la marquer dans la description du vidéo. Fait que je vais pas te la laisser la dire tout de suite, là. Mais en fait, j'ai quand même une question à te poser parce que je veux savoir le pourquoi de cette citation plus que d'autres choses. En fait, j'ai pas le choix de te le demander parce que sinon le monde comprendra pas trop pourquoi, là, mais je vais te laisser la dire, puis après ça, je serais curieux de savoir pourquoi cette citation-là.
Je pense que ça tie-in un peu avec la citation que je viens de donner, mais la citation que je t'avais donnée dans l'entrevue, ça vient de Kung Fu Panda. À l'origine, je t'ai donné le nom, c'est...
Teddy Roosevelt, je pense que tu m'avais donné.
Ouais, la femme du président Roosevelt, des États-Unis, en tout cas, bref. Moi, je l'ai entendu dans Kung Fu Panda, c'est Maître Po qui la cite dans Kung Fu Panda, c'est « Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. » Je trouve que c'est une très belle citation parce que ça rappelle le fait que tu peux pas changer le passé, c'est l'histoire. Tu peux apprendre de ça, mais tu peux rien. Tu sais pas ce que demain... va te présenter comme défi. Tu peux pas, ça sert à rien de trop prévoir d'avance puis d'essayer de tout contrôler. Faut accepter qu'on vit dans le moment présent puis d'être dans le moment présent, d'arrêter de toujours penser au passé ou de penser au futur, d'être au moment présent.
Ben, c'est pas mal ça. C'est important d'être conscient qu'on est dans un moment présent. De justement réaliser qu'on est présent, on est ici. Puis il y a des affaires qui se passent à ce moment même qu'on doit être capable de profiter justement autant la conversation qu'on a présentement que la conversation qu'on risque d'avoir un petit peu après. C'est des moments qu'il faut chérir, qu'il faut profiter parce que justement une fois qu'ils sont passés, c'est rendu de la mémoire. Il faut profiter avant que ça devienne de la mémoire. Okay, j'aime bien cette citation. Alors, ça, c'est ce qui va conclure notre épisode aujourd'hui. Merci énormément, Nick, d'avoir été présent aujourd'hui. Je suis vraiment content d'avoir pu parler avec toi.
Ça fait plaisir, pareillement.
Alors, merci à toi. Merci aux auditeurs. Merci à tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. Et continuez d'être curieux.